Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT, avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, Thierry Moreau, Yael Mellul et Fred Hermel, avec vous également au 32-16 pour réagir à tous nos débats du jour. Et tout d'abord, 70% des Français éligibles à l'indemnité carburant de 100 euros qui ne l'ont même pas réclamé. Le gouvernement a-t-il eu tout faux sur ce dossier? On attend bien sûr vos réactions. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et une mauvaise nouvelle, on assiste à une flambée des prix des mutuelles. À 14h, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui se prononce en faveur d'une légalisation encadrée du cannabis, d'accord ou pas d'accord. 14h30, RMC s'engage pour vous avec une enquête d'Amélie Rosic sur un trafic de cartes de chauffeurs VTC. C'est absolument incroyable. Vous verrez tout ça vers 14h30. Et puis on continue à vous rembourser votre facture d'énergie de l'hiver.
Nous défendons votre pouvoir d'achat sur RMC tout au long de la journée et à chaque heure. Nous vous remboursons vos factures d'énergie pour passer l'hiver au chaud. Fuel, bois, gaz, électricité. Vous envoyez tout de suite facture par SMS au 732-16. Facture par SMS au 732-16. Et puis on n'oublie pas évidemment les pros confrontés de plein fouet par la crise des prix de l'énergie. RMC, donc ne vous oublie pas, nous allons rembourser l'un d'entre vous jusqu'à 2000 euros dans Estelle Midi. Et là, vous envoyez pro par SMS au 732-16. Pro par SMS au 732-16. Deux SMS et c'est 75 centimes d'euros le SMS.
RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC et on va poursuivre Estelle Midi avec le flop du jour et c'est celui de l'indemnité carburant de 100 euros mise en place par le gouvernement. Une semaine après le lancement du dispositif, seuls 30% des Français éligibles ont fait une demande pour obtenir ce chèque de 100 euros. Écoutez tout de suite Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Plus de 3 millions. Alors je dirais plus de 3 millions seulement parce qu'il y a 10 millions de nos compatriotes qui sont éligibles. Donc j'ai demandé à la DGFiP d'aller chercher nos compatriotes qui ont le droit à cette aide. Tous ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, qui ont un niveau de revenu qui leur permet pas de supporter l'augmentation des prix du carburant. Mais il faut qu'ils aillent demander cette aide. 3 millions, c'est un beau résultat, mais c'est pas beaucoup par rapport aux 10 qui y ont droit. Et j'ai eu aucun retour négatif de ceux qui sont allés s'inscrire sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques. Mais voilà, il y a des personnes qui ne viennent pas solliciter cette aide, je leur dis, allez solliciter cette aide. C'est un soutien au pouvoir d'achat et un soutien au travail.
Et si les Français ne demandent pas cette aide, Rémi Barré, c'est parce que c'est compliqué à l'obtenir, contrairement à ce que dit Bruno Le Maire. C'est un peu une usine à gaz, quand même.
Ben alors, sur le papier, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le site internet des impôts, impots.gouv.fr. Et puis ensuite, il faut juste remplir deux conditions. Il faut utiliser un véhicule, une voiture ou un deux roues pour les trajets domicile-travail. Ensuite, il faut toucher un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 700 euros annuels. Bon.
C'est une usine à gaz.
C'est une usine. On peut considérer ça comme une usine à gaz. En tout cas, ce qui est inquiétant, c'est qu'on vient d'entendre le ministre de l'économie lui dit qu'il n'a aucun retour négatif. Il ne comprend pas clairement pourquoi.
Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui ont son numéro? Enfin, excusez-moi. De retour négatif de qui? Il ne côtoie que les gens qui ne doivent pas être éligibles.
Il dit de retour négatif de la part de l'administration, de la Direction générale des finances publiques. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est
déjà pour les avoir, excusez-moi, il faut au moins 3 jours.
Il est aujourd'hui accessible depuis le 16 janvier, il l'a dit. Les premiers versements, ce sera à partir du 27 janvier, 100 euros en une seule fois et pour l'année.
Il ne manquerait plus que ce soit en paiement différé et en 10 fois.
Non, mais quand je dis en une seule fois, c'est 100 euros pour l'année. Un dispositif censé remplacer pour les plus modestes la remise de 10 centimes par litre de carburant qui était accordé par l'État à tous les automobilistes auparavant, c'était jusqu'au 31 décembre dernier, et alors même que les prix des carburants continuent de flamber. D'après les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition énergétique, le tarif moyen du gazole a grimpé de 15 centimes sur les 3 premières semaines de l'année pour s'approcher de la barre symbolique des 2 euros, voire même le dépasser par endroit. Mais en moyenne, aujourd'hui, on en est à 1,91 € le litre de gazole. C'est encore plus marqué pour le sans-plomb 95. Plus 23 centimes depuis le début de l'année. On en est à 1,90 € en moyenne.
Et si à Paris intramuros, vous trouvez du carburant à moins de 2 euros le litre, surtout appelez-nous et prévenez-nous parce que moi, j'en ai pas trouvé en tout cas. Le gouvernement s'est-il trompé sur ce dossier, Fred Hermel?
Non.
Ah, d'accord.
Désolé de devoir défendre ce gouvernement, mais en fait, il y a un phénomène qu'on voit pour les aides sociales. Beaucoup de gens qui ont le droit à des aides sociales, notamment le RSA, ne le demandent pas. Donc c'est pas la première fois que des gens qui peuvent avoir ces aides ne les demandent pas. Après, c'est-à-dire c'est compliqué. Enfin, aller voir son revenu fiscal de référence, c'est très facile. Hein. Enfin, c'est un chiffre. Hein. C'est un chiffre sur le site des impôts.
Bah oui, faut y aller.
Bah oui, mais enfin, mais pour obtenir.
Ouais, mais c'est ça. Y aller.
Excuse-moi. Enfin, moi je veux bien, mais enfin, on te donne 100 balles quand même. C'est pas rien. On peut faire un minimum d'effort quand on a le droit à ça, quoi.
Faut avoir internet.
Fred.
10% des Français.
D'accord. Ça, on est d'accord. Bah, il reste quand même 90%. Donc, ou alors, moi, il y a dans les mairies normalement. Enfin, il y a des gens, le secrétaire de mairie dans les petits villages, ont plein de trucs, sont là pour aider aussi. Il faudrait que si les gens qui n'y arrivent pas aillent voir l'administration pour demander à être aidés. Alors peut-être que il faudrait mieux communiquer sur les personnes qui pourraient aider les gens à faire cette demande. Mais c'est, enfin, quand le chèque est envoyé à tout le monde, on disait c'est pas normal, c'est une gabegie, on dépense n'importe comment. Et là, il y a un tout petit effort pour le demander et on tape sur le gouvernement.
Excuse-moi, mais le chèque alimentaire, par exemple, il a été envoyé directement sur le compte des Français, sans avoir à le demander. Moi, je me demande si le gouvernement a pas fait exprès de mettre ça en place pour que justement les Français ne demandent pas ce chèque.
Franchement, il faut aller sur le site. Excusez-moi, les gens déclarent leurs impôts. Tout le monde, même quand tu n'es pas imposable, tu dois déclarer tes impôts. C'est pareil. Tu vas sur le site et là, c'est beaucoup plus vite.
Maintenant, les impôts le font pour toi et t'envoies un pré-rempli.
Il faut y aller quand même.
Tu oublies plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros qui ne sont pas réclamés par ceux qui ont droit, que ce soit RSA, aide au logement.
Ça va changer bientôt.
10 milliards d'euros. Donc ça va.
Mais c'est ce que j'ai dit. C'est quand même très important. Ça arrive souvent.
Et je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a 5 phénomènes. La méconnaissance. Il y a des gens qui pensent ne pas y avoir droit. Les démarches trop lourdes. On est quand même dans une administration française. Pour certaines aides, il faut se réactualiser tous les 3 mois sur le site de la CAF. Donc pour toucher certaines aides. Donc c'est très compliqué. Il y a l'électronisme. Moi, je veux bien que tu dises que ce soit simple d'aller sur Internet. Il y a des gens dans nos campagnes qui ne sont pas capables d'aller sur le site des impôts.
On est d'accord.
Donc l'électronisme, c'est quelque chose d'important. Quatrième chose, il y a aussi la honte d'avoir à demander. Il ne faut jamais oublier cette donnée-là. Il y a des gens qui ont un peu honte d'à demander. Et dernière chose, il y a des gens qui sont dans une telle précarité, dans une extrême précarité, qui sont loin, non seulement de ces aides-là, mais qui sont loin de tout. Qui sont loin des aides, qui sont loin de la bouffe, qui sont des assistantes sociales, qui sont loin de leur voiture. Ils n'ont pas de voiture. Et donc, ceux-là, ça ne les touche pas. Donc, ces 5 phénomènes font que, effectivement, beaucoup de gens ne le réclament pas. Et moi, je suis pour une automatisation.
On en parle parfois.
Des aides.
Alors, Rémi, vous avez plein de chiffres, justement.
Oui, parce que, justement, j'ai des chiffres à ce sujet sur le non-recours aux aides sociales. Oui. C'est 10 milliards d'euros par an. Mais attention, j'ai le détail. C'est 36% de non-recours au RSA, 27% de non-recours à la prime d'activité, et entre 21 et 34%, c'est impressionnant, de non-recours à la CMU, la couverture maladie universelle. C'est-à-dire que certaines personnes ne se font pas soigner parce qu'elles n'ont pas l'argent ni une couverture suffisante pour pouvoir aller chez le médecin alors qu'elles y ont droit.
39% des aides aux handicapés qui ne sont pas perçues. Quelqu'un qui est handicapé, a priori, il le sait, forcément, évidemment. Eh bien, 39% ne prennent pas leur aide. Allocation adulte handicapé.
Et je rappelle que ça va changer parce que c'est l'une des grandes mesures du quinquennat Macron, c'est justement que les aides soient versées directement sans que les personnes aient à en faire la demande. C'est un flop magistral pour vous, Yaël Mellul, cette indemnité carburant.
On va dire que c'est un flop de plus, mais je suis pas très étonnée. C'est encore une fois une mesure qui nous a été annoncée. Qui nous a été annoncé en fanfare et après il s'est rien passé. On a le ministre qui nous dit aujourd'hui il y a 7 millions de personnes qui pourraient le réclamer et qui ne le font pas. C'est juste énorme. Alors,
mais ce sont des gens qui travaillent, qui prennent leur voiture pour travailler. Quand on dit ce sont des gens qui ne sont pas capables de remplir, etc. On parle de gens, cette aide, de gens qui utilisent leur véhicule pour aller travailler.
Mais à un moment donné, il faut aussi que le gouvernement se remette en question, d'accord. On ne peut pas toujours imputer la responsabilité aux autres. Hein, ça suffit, ça aussi, d'accord. Donc il y a manifestement un problème de communication. C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire a quand même éprouvé le besoin, c'était hier ou aujourd'hui, de reparler encore de cette mesure d'aide. Donc et encore une fois, ça pose aussi le problème du timing de cette réforme des retraites. Parce qu'aujourd'hui, la réforme de retraite, elle couvre. Elle couvre tout. Voilà. Donc le timing est extrêmement mauvais.
Alors, c'est quand le bon moment alors?
C'est un autre sujet, ça.
C'est encore moins le bon moment aujourd'hui dans la crise que nous on peut pas nier le fait qu'on traverse une crise quand même.
On est d'accord. Mais il y a aussi un autre problème sur cette réforme. C'est que, en fait, il y a beaucoup de Français qui ne pensent pas faire partie des 10 millions de Français les plus pauvres. Et en fait, c'est comme ça qu'elle a été présentée, cette réforme. Ce chèque, il est pour les 10 millions de Français qui travaillent les plus pauvres. Et t'as plein de Français qui ne pensent même pas être là-dedans, donc ils n'ont même pas été voir sur Internet s'ils pouvaient en bénéficier. Parce qu'ils sont tellement, d'habitude, écartés des aides, parce qu'on leur dit, vous gagnez trop.
Et là, ils disent,
c'est encore un truc que je vais pas toucher. Et c'est ça, le problème. Alors si ça avait été directement. Sur les comptes bancaires des Français, ça aurait quand même été plus simple. On aura Pierre Chasseret, tiens, dans un instant, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Mais avant cela, Eric, qui nous appelle de l'Aphorie, dans le Puy-de-Dôme. Bonjour, Eric.
Bonjour, Estelle.
Alors, Eric, vous faites partie de ceux qui avaient demandé cette indemnité, mais vous avez été recalé, quoi.
En fait, c'est pas moi, parce que moi, j'ai pas droit, mais c'est ma femme qui a droit.
Ouais.
Et en fait, y a un souci au niveau du site de l'État, il y a un bug, c'est qu'en fait, le site ne prend pas les anciennes immatriculations.
C'est-à-dire ?
Ben vous savez, avant, on avait des immatriculations qui avaient quatre chiffres, deux lettres et quatre chiffres, et les deux derniers, c'était le numéro du département.
Oui.
Et ben, quand on rentre la plaque, le site ne la prend pas, la plaque.
Ah oui, évidemment, c'est embêtant, oui. Ça, c'est
station française.
Et donc
la voiture, elle est vieille, quand même.
Les plus pauvres, c'est pas ceux qui ont une Maserati neuve.
Mais j'ai pas dit contraire.
Voilà, donc c'est sûr qu'on est vieille.
Ça, c'est fou que l'administration ait pas pensé à ça, quoi.
Oui. Comme tu le dis, c'est fou.
Et donc, justement, ma femme a réussi à les avoir au téléphone, justement.
Ah, bravo.
Et donc, ils ont dit que oui, il y avait un souci au niveau du site et qu'ils étaient en train de le rectifier. Et que du coup, les anciennes IMAT seront prises en compte à partir de début février.
Bon, bah là, ça c'est plutôt pas mal. Voilà que le gouvernement est conscient. Enfin, ce qui est quand même fou, mais merci Eric de nous avoir appelé. Mais c'est dingue que le gouvernement n'ait pas pensé à ça. C'est-à-dire que, comme l'a dit Elmélule, c'est-à-dire qu'en fait, c'est encore un truc qui a été fait à la va-vite.
Absolument.
Pour masquer la réforme des retraites. On s'est dit, on va les balancer sans balles.
Ça a été fait par des petits énarques de 25 ans qui ne savaient pas qu'avant, les plaques étaient différentes.
C'est plus profond que ça. C'est que l'administration, les gens dans les bureaux, on leur dit, on va faire cette mesure. Ils font un site. Eux, ils ont une voiture récente, comme tu le dis, c'est des jeunes gens. Voilà. Et ils pensent pas un instant que parmi les plus pauvres de notre population, c'est ceux aussi qui ont les plus vieilles voitures. Et ne pas y avoir pensé que l'administration elle-même ne contrecarre pas cet oubli du gouvernement, c'est hallucinant.
Et félicitations à Eric, donc,
bravo,
à son épouse,
bravo,
d'avoir soulevé ce lièvre et d'avoir permis que.
À mon avis, il n'est pas le seul à avoir
puissent bénéficier. Oui, mais on va dire que c'est eux. puissent bénéficier,
c'est RMC s'engage pour vous,
de cette nouveauté
Eric,
dans
c'est RMC s'engage pour vous.
Mais on s'est engagé pour les Français. En tout cas, Eric l'a fait pour nous. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Pierre Chasseret, notre invité, sur ce débat. Évidemment, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour, Pierre.
Salut, Estelle. Bonjour à tous.
C'est un plaisir de vous avoir en ligne, Pierre. Alors, on se disait quand même, c'est pas mal, cette indemnité carburant, c'est pas génial, mais c'est pas mal. Il y a 10 millions de Français qui vont pouvoir toucher 100 euros. Finalement, ils les touchent même pas, dites donc.
Non, c'est rien. 100 balles et 1 mars, grosso modo, parce que c'est complètement absorbé en un seul plein, ramené à l'année pour quelqu'un qui fait 12 000 km.
Dites donc, l'équivalent de 10 centimes. 100 euros un plein, il faut avoir une grosse voiture quand même.
On est à 2,20 € le litre dans certaines villes, vous multipliez par 40 litres, vous allez voir qu'on se rapproche très vite.
Oui, c'est vrai.
On y est quasiment.
Okay.
Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les 10 millions qui ont été à peu près calculés par l'État, ça s'appelle ciblé. Ciblé, c'est exclure. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de Français qui peuvent, 30 millions qui peuvent pas.
Ouais.
Celui qui a créé la cible et qui a visé la cible, c'est le président de la République. On a connu meilleur archer quand même en ce moment pour viser. Donc, moi j'ai envie de dire que aujourd'hui, les Français disent stop un peu à cette acceptation de l'envolée des prix des carburants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement le niveau de taxe en France fait de la France la médaille de bronze européenne du classement de la fiscalité sur les carburants.
Ah, mais il y a quand même deux pays devant nous alors.
Ça fait pas beaucoup, hormis l'Italie et puis un autre, il y a plus grand monde devant. On est 26 pays européens, on est troisième ou quatrième selon les carburants au coup de matraque. Donc on a une surfiscalité sur les carburants. Je me rappelle, il y a quelques semaines, on était ensemble, je vous avais dit sur chaque carburant, ça sert à rien, c'est un dispositif de plus.
Bah, c'est
on
déjà ça de prix quand même.
On va revenir à nouveau dessus.
Ah oui, donc ça c'est sûr.
Eh bien, on va revenir à nouveau dessus. Parce qu'en fait, il y a une vision politique qui est complètement délirante qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron ne veut pas accepter qu'on est allé trop loin sur la fiscalité des carburants. Je vais vous donner un chiffre. Sous Sarkozy, avant ouais. que François Hollande n'augmente la fiscalité sur les carburants, parce que c'est Hollande qui a augmenté la fiscalité sur les carburants, la France prenait 34 milliards de taxes sur les carburants en 2012.
D'accord.
34 milliards en 2012. Aujourd'hui, 41 milliards. Oui. C'est-à-dire que chaque année, on prend 7 milliards de plus depuis l'augmentation de la fiscalité sur les carburants par François Hollande. C'est les 7 milliards qu'il y a en trop. C'est
oui, du trop
perçu.
Et on rappelle quand même que plus le prix de l'essence est haut, plus l'État touche de taxes.
Bien
hein.
sûr.
Si l'essence était à 3 euros, on pourrait payer toutes les retraites, hein, je vous le dis. Non mais voilà.
Peut-être pas de mauvaise idée.
Dire que c'est un trop perçu, c'est de l'argent qui sert quand même à financer le train de vie de l'État.
Non, mais
alors après, on peut considérer que l'argent est mal employé, ça c'est un autre débat. Mais c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État.
Mais alors on fait quoi, Père Chasseret ?
Là où on a un problème, je me souviens de cette phrase qui avait entraîné Gilets jaunes, la phrase d'Edouard Philippe qui était alors Premier ministre, qui avait dit « J'ai choisi de taxer la pollution et de ne pas taxer le travail ». Mais là où il avait tout faux, Edouard, là-dessus, c'est qu'en fait, il taxait le travail. Taxer la voiture, c'est taxer celui qui bosse, c'est taxer l'économie. Quand vous taxez aussi même celui qui ne prend pas sa voiture pour aller bosser, prenez un retraité qui nous écoute et qui a besoin de sa voiture pour aller chercher ses petits-enfants, faire ses courses.
Bien sûr.
La voiture, c'est pour aller consommer. Qu'est-ce qu'on veut comme société ? On veut une société d'Amazon où on nous livre tout sur le bord de la fenêtre comme à l'époque du Covid ? On veut reprendre nos voitures pour pouvoir retrouver un petit peu de liberté, de vie sociale. Le pouvoir rouler, la voiture, le pouvoir rouler, c'est ce qui va permettre le pouvoir d'achat. C'est ce qui va permettre de redynamiser des petits cœurs de ville dans lesquels on va plus.
Ouais, c'est
on
pas la mode, ce que vous dites, Pierre.
Non, c'est un peu à contre-courant, mais il vient de le dire.
C'est à contre-courant que c'est faux. Courant nous emmène dans le mur. Hein.
C'est pas faux, je vais y réfléchir. Vous avez pas mal de messages, Rémi.
Ce message, par exemple, de Adrien qui nous écrit, ce n'est pas un problème de démarche à propos de l'aide des fameux 100 euros que les plus modestes peuvent obtenir. C'est surtout 100 euros en une fois pour l'année. Ridicule. Je comprends que certains n'aient même pas envie de faire cette démarche. Et puis il y a ce message de Kevin qui nous dit, pour ma part, les 100 euros, je n'ai pas droit vu que je n'ai pas encore de numéro fiscal, car je viens de rentrer sur le marché du travail et de quitter la vie fiscale de mes parents, alors que je ne gagne que 600 euros en tant qu'auxiliaire de vie en formation.
C'est bien parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de cas de figure qui ont été oubliés dans cette réforme, qui donc a été une réforme à la va-vite. Il faut le dire.
Ça, on est d'accord, mais enfin, dire que 100 balles c'est rien, je suis désolé, tout le monde a hurlé ils avaient raison d'hurler quand les appels ont été baissés de 5 euros par mois. On peut pas dire que 100 euros c'est rien. Et que ça mérite pas un petit effort.
C'est pas là pour payer les plats, c'est là pour payer l'augmentation. Et donc ça veut dire, si on considère 20 centimes, ça veut dire que ça permet d'avoir 500 pleins. C'est une aide sur 500 pleins.
Exactement.
500 litres, pardon.
500 litres. Oui, mais ça fait maximum de pleins.
Oui, oui. 500 litres.
Voilà.
500 litres d'essence qui sont payés par le gouvernement avec cette aide.
On est avec Cyril qui nous appelle du Taillant-Médoc en Gironde. Bonjour Cyril.
Bonjour à toute l'équipe, très bonne année.
Bonjour. Bonne année Cyril. Ah oui, on peut encore, tiens, jusqu'au 31.
On peut encore.
Cyril, est-ce que vous êtes éligible, vous, à cette aide ?
Alors, je ne suis pas éligible.
Ouais.
Parce que j'ai la chance de faire partie de ceux qui ont suffisamment de revenus mensuels dans le cadre du foyer fiscal. J'écoutais les commentaires. Je passerai la dichotomie sur il y a trop de taxes en France et l'État donne pas assez. Bon, alors ça, on passe. J'ai aussi galéré avec un très petit salaire. Quand on vous dit que vous avez le droit à quelque chose, on trouve le moyen de l'avoir. On a des Français qui cumulent des points sur les cartes de fidélité, qui suivent au point qu'ils s'abonnent à des sites de livraison en ligne. Quand on dit l'échec du gouvernement parce qu'il n'y a que X% qui l'ont réclamé ou c'est pas assez, donc ils estiment que je vais pas le réclamer, eh ben on peut pas se plaindre.
C'est dû à quoi, Cyril, à votre avis, le fait que 70% des Français éligibles ne l'aient pas demandé, cette aide ?
Alors, certainement pas 70% de fracture numérique, j'y crois pas.
Non, ça c'est sûr.
Il suffit de voir la croissance du e-commerce et de tous les outils digitaux, que ce soit Uber ou autre. Je pense qu'une bonne partie, et je parle pour les gens qui sont autour de moi, préfèrent râler toute l'année plutôt que de dire « oui, mais l'État m'a donné, oui, mais l'État a fait un effort ». Donc ça, je trouve ça un petit peu gonflé.
Ouais.
Et je ne comprends pas qu'on puisse, depuis toutes ces années, dire « le gouvernement est en échec parce que le plan n'a pas... » Mais il faut que les gens se prennent en main.
Moi, je suis des artisans,
il a fallu que je me construise tout seul.
Oui, mais parce que vous avez ce caractère-là et cette envie-là et peut-être ce talent aussi. Il y a des gens, Cyril, vous savez très bien, qui gagnent pas bien leur vie et qui ont plus de mal à se prendre en vie.
À 70%, je peux pas le croire.
Non, ça, je suis d'accord. Mais après, il y a la communication qui a été mal faite.
Alors que ça a été mal orchestré, mal communiqué, il n'y a pas de débat. Mais ça fait combien de temps qu'on sait qu'on peut aller réclamer 100 euros?
Ben ça fait un peu plus. Alors, en fait, la mesure a été lancée la semaine dernière, mais ça fait des jours et des jours qu'on nous en parle, en fait, qu'on nous annonce ça en grande pompe. Donc normalement, les Français auraient dû être au courant, mais ça veut dire aussi peut-être que le gouvernement n'est plus audible.
Alors dans ce cas-là, c'est pas un échec, c'est juste un retard à l'allumage. Et d'ici quelques mois, on pourra tous se féliciter que les 70% ont été réduits de plus de moitié et que finalement, il faut se rendre compte qu'on est dans un pays où l'État va verser des aides à des gens qui ne les réclament pas de façon automatique.
Oui, c'est vrai. Mais c'est pas faux. Là, ils sont obligés de la réclamer, mais effectivement, d'habitude, c'est l'inverse. Ouais.
C'est juste magique. Donc, bon, on est dans un pays magnifique. On râle sur les gouvernements depuis des décennies. On n'est jamais content. Dès qu'on élit quelqu'un, on a envie de lui couper la tête. Moi, je trouve que le dernier gouvernement, on fait des choses très très bien. Qu'on soit de gauche ou de droite, on doit juste profiter de ce que notre pays nous offre et arrêter systématiquement, hors grève, de contester, de dire « bah ça a été mal fait, il faut faire tomber la tête du gouvernement ».
Eh ben merci beaucoup Cyril pour cette affaire. Il est positif et pragmatique. Cyril, on a Yves qui nous appelle Dayange en Moselle. Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors, est-ce que ça a marché chez vous, l'aide carburant?
Ah ben j'aurais bien voulu. Ah. Mais on a beau aller sur le site, une fois qu'on y est, on a tout le questionnaire à remplir et à la fin, il y a toujours quelque chose qui manque ou qui n'est pas bon. Vous savez, dans un cadre général, tout ce qui concerne les gouv.fr, tout ce qu'on veut, c'est tellement compliqué qu'à la fin, on abandonne.
Oh, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve ça plutôt bien fait, même pour les papiers d'identité et etc. Mais donc vous étiez éligible et vous n'avez pas pu la toucher, alors cette aide.
C'est mon épouse. Moi, je suis à la retraite. Elle d'accord. Travaille.
Ouais.
Bon, et elle fait un plein et demi de son véhicule par semaine.
Ouais, c'est beaucoup, ouais.
Voilà. Bon, on a la chance. Je suis à Ayange, effectivement. J'ai ma pompe à essence luxembourgeoise à 18 km.
Oui.
Et je paye actuellement le gasoil à 1,65.
Bon. Ah oui, quand même.
Mais ça n'empêche que si vous voulez, si on a droit à une aide, ma femme, elle est aide à domicile.
Ben, elle la prend.
Vous savez, le salaire, il est pas terrible. L'indemnité kilométrique n'a pas bougé depuis des années, etc., etc. Donc, les 100 euros, on en a besoin, mais impossible de réussir la chose.
Ah, donc c'est effectivement pour vous aussi ça a été compliqué. Vous êtes très nombreux à nous dire d'ailleurs que ça fonctionne pas génialement en fait ce site, et faut peut-être le dire à Bruno Le Maire pour lui dire que en fait c'est parce que le site ne fonctionne pas que les gens ne réclament pas cette aide. Voilà, ils se demandaient pourquoi. On a la réponse dans Estelle Midi avec tous les auditeurs qui nous appellent. Merci Yves en tout cas d'avoir été avec nous, puis bon courage, réessayez une nouvelle fois peut-être, parce que là ça va être
réessayerai parce que je suis
têtu. Mais vous faites bien Yves, peut-être que le gouvernement nous écoute et va corriger ces quelques bugs sur ce site. Merci beaucoup Yves d'avoir été avec nous. Pierre Chasseret, est-ce que pour faire plus simple, il faudrait remettre l'indemnité pour tous, le carburant, c'est-à-dire la ristourne à la pompe?
Mais non, même pas. Bon, il faut réformer la fiscalité des carburants pour que la France reste dans une moyenne européenne de la fiscalité. Il faut arrêter de matraquer. Toutes ces mesures où en fait on cible et où on essaye d'exclure trois quarts de la population en braquant les Français les uns contre les autres, en essayant de faire croire que celui qui a pas fait, eh bien c'est de sa faute. Non, faut arrêter. Il faut une mesure simple et efficace. Parce que vous pouvez faire tous les chèques que vous voulez, ça change pas le prix à la pompe.
Si à la pompe, il y a la ristourne, tous les Français étaient contents. Hein. Quand il y a eu la ristourne de 20 centimes à la pompe, moi, j'ai pas entendu un seul Français râler. Hein.
Mais bien sûr, mais parce qu'on était arrivé à un niveau de fiscalité qui était acceptable. Tout le monde comprend que le prix du baril s'est envolé. Tout le monde comprend qu'il y a eu une envolée des prix des carburants. Mais personne ne peut entendre que l'État se goinfre grâce à un pourcentage de TVA et fasse davantage de profits lorsque les prix des carburants sont au plus haut. C'est 20% la TVA. Donc vous avez déjà une taxe, la TICPE, qui prend déjà 60 à 70 centimes. Et ensuite, vous avez 20% du prix global. Il n'y a pas besoin d'avoir fait normal sup pour comprendre que plus le prix du baril est cher,
plus le prix
affiché est cher et plus l'État prend de taxes. Il y a un système qui est totalement incohérent et ubuesque dans le fait que l'État refuse d'abaisser sa fiscalité au moment où il perçoit le plus injustement cette fiscalité. L'État ne peut pas profiter de la crise des carburants.
C'est ça, parce que là on se plaint sur ce plateau en permanence de la spéculation, etc., des actionnaires, des entreprises, mais là, l'État spécule.
L'État sert à financer des choses, le spéculateur, ça va sous forme de dividendes.
Moi, je voudrais bien savoir, bah oui, mais ce serait bien que l'État aussi, à un moment, explique ça aussi, fasse un boulot pédagogique et explique où va l'argent, des impôts, des taxes sur l'essence, etc. Quoi. Moi, aujourd'hui, Thierry Moreau, je ne sais pas si beaucoup de gens savent où va cet argent des taxes sur l'essence. Vous le savez-vous?
Enfin, c'est le budget global de l'État, de toute façon. Après, les aides sociales, c'est plus de la moitié du budget de l'État. Donc,
régulièrement, c'est que vous n'êtes pas sans l'ignorer qu'on a vécu une crise sanitaire sans commune mesure il y a quelques mois. Au total, on est à 206 milliards rien que pour les aides pour les entreprises. Cet argent, il a fallu le sortir.
Les entreprises commencent à rembourser. Il y a eu un tiers des PGE qui ont été remboursés. Il reste d'autres tiers.
Si cet argent est sorti, il va falloir qu'il rentre aussi.
Absolument. Exactement. Merci Pierre Chasseret d'avoir été avec nous, en tout cas dans Estelle Midi. On va voir si les Français sont avec vous. Pierre, sont d'accord avec vous. Indemnité carburant, le gouvernement a-t-il eu tout faux, Rémi Barré?
C'est Louis. Il l'emporte.
Ah bon, ça m'étonne.
Il l'emporte pas de peu, hein, parce que c'est 88% de oui pour ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Ce serait bien que ceux qui s'occupent de cette application là, au niveau du gouvernement, la revoient et puis commencent à réparer quelques bugs pour qu'un maximum de Français puissent bénéficier de cette indemnité de 100 euros. Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On va se demander si le manque de main d'œuvre va finir par paralyser certains secteurs d'activité. Il faut le craindre, en tout cas dans certaines régions. Michel-Edouard Leclerc, invité ce matin d'Apolline. Les industriels alimentaires sont-ils des profiteurs de crise? On parlera d'un déjeuner de journalistes à l'Élysée qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et puis, Kylian Mbappé doit-il être le capitaine du Paris Saint-Germain? Ça sera pour Fred Hermel, tiens, pour lui faire plaisir. A tout de suite sur
RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h31 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, avec Yael Mellul, avec Fred Hermel. Et tout de suite, c'est le meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec un extrait de Charles Matin. Le manque de main-d'œuvre va-t-il finir par paralyser certains secteurs d'activité? D'ici 2030, 120 000 personnes manqueront à l'appel, ce qui risque de poser problème, surtout dans certaines régions. Les explications d'Emmanuel Le Chypre.
D'un côté, il y a 760 000 postes qui seront à pourvoir par an, dont 9 sur 10 liés à des départs en retraite, alors que seulement 640 000 jeunes débutants entreront sur le marché du travail. Les difficultés de recrutement devraient particulièrement s'aggraver en Bretagne, où il y aura des difficultés de recrutement sur 42% des postes. Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine. À l'inverse, l'Île-de-France afficherait la plus faible part d'emplois en tension en raison d'une démographie plus jeune.
Et alors, quels seront les métiers concernés?
Alors, il y a des métiers qui seront en tension croissante partout. Conducteurs de véhicules, cadres administratifs, cadres commerciaux, agents d'entretien, aides à domicile. Les deux plus gros risques de pénurie, c'est sur les aides à domicile. Justement, les postes non pourvus représenteraient entre un quart et la moitié des emplois actuels. Et puis, ingénieurs en informatique. Là, ce sera un tiers des emplois actuels qui manquent.
Le manque de main-d'œuvre va-t-il finir par paralyser certains secteurs d'activité? Thierry, c'est vrai que ça commence à devenir inquiétant.
C'est inquiétant, et en même temps, dans ce que dit le GIP, il y a plusieurs trucs, parce que c'est vrai que les conseillers commerciaux, je pense que c'est quelque chose où on peut finir par gagner de l'argent, de même que il y a un autre métier qu'il a cité en dernier, alors que les aides à domicile, par exemple, ce sont des métiers qui sont sous-payés, et qui en plus sont obligés, on vient d'en parler, de prendre leur voiture, exactement, pour faire leur travail, etc. Donc cela, s'il n'y a pas une revalorisation des minimum qui permettent à ces gens de on aura toujours un déficit ingénieur informatique. Oui, il a dit ingénieur informatique. Là, c'est parce qu'on a un déficit de les développeurs aujourd'hui, ils sont débauchés, ils s'en vont ailleurs, et donc ils restent pas en France notamment. Donc il faut absolument que les métiers les plus pénibles, ce qu'on a appelé pendant un certain temps les premières lignes, voire les deuxièmes lignes, soient effectivement mieux revalorisés, sinon la pénurie, elle durera.
Oui, et puis un autre problème, c'est qu'il y a des régions où c'est très difficile de se loger, en région parisienne. Oui, si tu travailles à Paris, c'est très compliqué de te loger à Paris. Parce que
c'est pas dans ces régions où il y aura le plus de pénurie, c'est plutôt la Bretagne et les Pays de Loire, alors que la Bretagne et les Pays de Loire.
Mais la Bretagne, c'est quand même de plus en plus cher, donc c'est pareil, tu te loges.
Des coins où on peut se loger quand même en Bretagne.
Oui, non, mais bien sûr, mais enfin, des coins où tu peux te loger, mais enfin, si t'es au fin fond de la Bretagne
de la
et que tu te retrouves. Oui, non, mais. Et ton boulot est au bord de la mer, bah, c'est compliqué, t'es obligé de faire des bornes. Et donc, effectivement, comme tu le disais, obligé d'utiliser ta voiture. Moi, là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on en revient toujours au même. Faut payer les gens, quoi. C'est plus possible.
Il faut payer les gens, et puis après, vous savez, on parle beaucoup, vous savez, les forums des métiers qui sont faits pour les jeunes étudiants, etc. Il faut peut-être remettre en valeur certains pays et certains métiers et certains secteurs qui ont été méprisés, quoi. Le retour, enfin, on parle souvent, mais le travail manuel est très peu valorisé en France. Oui. Très, très peu. Et c'est catastrophique, hein. Et...
Trouver un bon ébéniste aujourd'hui, alors que c'est
merveilleux.
Et voilà, donc il faut remettre en avant ce genre de métier, arrêter de les dénigrer, parce qu'il y a même beaucoup de gens de gauche qui dénigrent. Quand j'ai vu plein de discussions en ce moment de gens qui, au nom d'une idée de gauche et dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites, dénigraient totalement les ce qu'ils appelaient eux-mêmes des petits métiers. Non, ce sont pas des petits métiers.
Oui, et puis il y a un moment, à force de vouloir envoyer 95% d'une classe d'âge avec le baccalauréat, effectivement, on fait qu'il y a des jeunes qui pourraient être dans d'autres métiers, faire autre chose. Bah. Voilà, ils vont aller à la fac, ils vont abandonner au bout d'un an, deux ans,
ils auraient pu
faire un autre métier.
Ils ne peuvent pas être dans les
start-up nation. Oui, mais être en alternance, etc.
Je dis vraiment, je pense qu'un plombier est plus utile que moi. Hein.
Ah ben ça c'est une
question. Non mais c'est vraiment.
Surtout le dimanche soir quand c'est une canalisation de sauce.
Voilà, ça
effectivement. Ça,
c'est vrai. Ouais.
Et puis en plus c'est autant de cotisations sociales. C'est ce qui arrangerait bien nos affaires. Hein, donc
Les grandes gueules ce matin. Le déjeuner des journalistes à l'Élysée vous a-t-il choqué? Le 17 janvier dernier, deux jours avant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le président de la République a déjeuné dans le plus grand secret, enfin plus maintenant, avec une dizaine d'éditorialistes politiques et ça a beaucoup choqué l'avocat Charles Consigny.
Je pense que ça amenuise beaucoup la capacité critique des uns et des autres. Je pense que malgré tout, les journalistes sont flattés d'être à l'Élysée. Je sais même d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux communiquent directement sur Telegram avec le président de la République. Je sais qu'ils sont extrêmement flattés d'avoir ce canal direct avec le président, que du coup, évidemment, qu'ils disent plus la même chose une fois qu'ils sont à l'antenne ou une fois qu'ils s'écrivent. C'est une réalité. On peut choisir ou pas d'y participer. On peut choisir d'ailleurs d'être dur quand même avec le président ou avec un ministre après avoir déjeuné avec lui. Mais j'observe, moi, je suis désolé que par exemple, par comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis, la presse française est d'une servilité extraordinaire avec le président de la République. Je suis désolé.
Conseiller François
dans la période contemporaine, je ne parle pas sous Mitterrand, je ne parle pas sous les Mérovingiens, je parle de la période actuelle. Il y a très peu de journalistes, il y en a quelques-uns au monde. Il y a Plenel, il y a Élise Lucien, quelques-uns qui remuent la plume dans la plaie. Et je suis désolé de dire que les autres ne sont pas dans le même journalisme.
Il n'a pas dû regarder, c'était le midi, Charles Consigny. Ça vous a énervé, tiens, ce qu'il a dit.
Oui, parce que ça a toujours existé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la moindre réunion secrète ou le moindre visiteur du soir qui franchit même la grille du coq, qui est l'entrée arrière de l'Élysée, il est grillé aujourd'hui. Les réseaux sociaux font qu'on sait tout. Mais de tout temps, Nicolas Sarkozy recevait des journalistes, François Mitterrand recevait des journalistes pour des petits déjeuners, pour des déjeuners.
De Gaulle recevait des journalistes.
Évidemment, à chaque fois, il fallait pas dire qu'on avait rencontré le président. Donc c'était bien. Alors on peut appeler ça des éléments de langage, parce qu'effectivement c'est à la mode, et puis maintenant c'est dans le marketing. Mais à l'époque c'était pareil, on faisait passer un message auprès d'un certain nombre de journalistes. Françoise Fressos du Figaro, je la trouve pas particulièrement tendre pour le gouvernement régulièrement. Elle fait son métier, elle va au contact du monde, excusez-moi. Elle n'est pas spécialement tendre avec le gouvernement, elle fait son métier. L'important, c'est de ne pas copiner. Ça, c'est un problème. Et je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'une partie des journalistes qui copinent avec des politiciens. Ça, c'est un problème. Mais quand on est invité à l'Élysée pour essayer de sentir un peu et de poser des questions auprès du président, ça ne se refuse pas. Et voilà.
Et il faut quand même dire que tu peux être journaliste, écouter ce que dit le président.
Mais oui.
Et après,
tu peux penser le contraire.
Et tu peux penser le contraire.
Et les mêmes, ils déjeunent avec Mélenchon, ils déjeunent avec Barzella, ils déjeunent avec Marine Le Pen, ils déjeunent avec les autres.
J'aime bien Charles Consigny, mais je voulais simplement rappeler à Charles que je considère comme un copain, qu'il a été, il y a encore quelques mois, candidat aux législatives. Donc, que lui aussi, et j'espère pour lui, il a dû prendre des petits déjeuners et des déjeuners avec des journalistes, je crois qu'il se présentait dans les Yvelines, de la presse.
Et porte-parole de Valérie Pécresse aussi.
Voilà. En plus, voilà. Donc, il faut,
c'est tout le monde.
Cette année, ça fera 33 ans que je suis journaliste. 33 ans. Et j'aurais jamais pu faire mon métier si j'avais pas eu des déjeuners, des dîners, des voyages en voiture, etc. De discuter. Ça s'appelle le off. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on sort des messages officiels, justement. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que dans ce genre d'endroit, discute, t'apprends beaucoup de choses en dehors des communications officielles. Et c'est comme ça que tu
peux sortir. Ce qu'il veut,
Oui, mais quand t'es là-bas, t'es dedans, tu discutes, t'es à côté de quelqu'un, tu parles quelqu'un, tu rencontres, etc. C'est comme ça qu'on fait ce métier. C'est le jour où le off disparaît, c'est la fin du journalisme, nous ne serions plus quoi. Soit des opposants.
Là, c'est pas vraiment du off, puisqu'il le dit à plusieurs journalistes, et en fait, c'est du off. c'est du off qui est destiné à être du on. Donc c'est pas du off.
Oui, bah, non mais c'est ça devient du on quand on ouvre deux points des guillemets.
Mais excuse-moi, mais Emmanuel Macron, il veut quoi? Il veut que les journalistes ils relaient.
Bah, oui, mais c'est son métier.
Oui, après les journalistes sont pas obligés de relayer.
Mais il faut qu'ils se contactent parce que sinon on peut pas.
Non, mais c'est pas.
Il y a le mélule.
Moi, évidemment que ça existe depuis toujours. Ça n'a rien de.
Mais c'est la base du métier.
Ça n'a rien de choquant en réalité. En revanche, ce qui est surprenant, c'est la temporalité. C'est que ce repas-là a eu lieu quelques jours avant la manif et qu'on nous dit aujourd'hui que c'était pour délivrer des éléments de langage. Maintenant, il faut savoir si les journalistes qui étaient présents à ce repas ont utilisé ces éléments de langage ou pas. C'est ça qui est
important. Parce qu'ils ont dit.
Mais ils sont pas obligés de le faire.
Évidemment qu'ils sont pas obligés. Et j'espère qu'ils sont pas obligés de le faire. Ils ont leur libre arbitre.
Évidemment.
Alors, par contre, moi, j'ai par hasard, hier, sur un plateau, sur BFM, il y avait un journaliste du Figaro qui était. Son nom était sorti, il était. Exactement.
Ouais.
Je suis désolée, j'ai oublié son nom. Il défendait bec et ongle la réforme. Alors.
Mais parce que c'est la ligne déjà de son journal.
Mais en même temps, je pense que c'est parce que c'est la ligne de son journal, absolument. Donc,
et
voilà.
C'est peut-être sa conviction.
Et c'est peut-être sa conviction, absolument. Voilà.
Et puis ça permet d'avoir aussi des petites phrases. Par exemple, le côté, il ne faut pas que ce soit le camp de l'irresponsabilité qui gagne. C'est quelque chose qui a été dit à dessein par le président, qui est repris par les éditorialistes.
Oui, mais enfin, non.
Mais justement, ça provoque un débat. Mais oui, mais derrière, ça provoque un débat.
Non, alors ça, justement, non.
Ça provoque un débat.
Mais non, je veux dire, ils sont pas, c'est le porte-parole qui reprend des éléments de langage et des membres du gouvernement. D'ailleurs, ils ne font que ça, reprendre des éléments de langage. Ils ont des fiches, ils ont des éléments de langage, ils ne font que ça. C'est pas des journalistes de le faire, je suis désolée. Hein.
Alors moi, il y a un problème.
Ils sont là pour être dans la neutralité.
T'as pas compris ce que j'ai dit. Ça leur permet d'avoir justement ce type de phrase et d'ensuite les commenter dire aujourd'hui que ce sont des irresponsables, c'est peut-être une bêtise.
J'ai compris, j'ai compris.
En plus, le scandale, il n'est pas là. Le scandale, ce sont les conseillers en communication.
Oui.
Qui pullulent sur tous les médias. On appelle conseillers en communication. Qui, pour la plupart, ont travaillé, travaillent ou travailleront pour des hommes politiques.
Ah oui.
Et ça, c'est un véritable problème.
Ça, c'est vrai.
Parce qu'on les fait passer pour des experts, mais ce sont des experts qui ne sont pas du tout indépendants, puisqu'ils vivent de communication politique.
Absolument.
Ça, pour moi, on devrait interdire dans les médias la présence de communication, ou alors au moins citer conseiller de machin. Fait un scandale pour un truc tout à fait normal avec des journalistes totalement indépendants, et on ne parle jamais des conseillers en communication.
Ça, c'est vrai.
Le face-à-face ce matin, les industriels alimentaires sont-ils des profiteurs de crise? Oui, selon Michel-Édouard Leclerc, qui affirme que les grands groupes augmentent les coûts des produits pour mieux rémunérer les dividendes aux actionnaires. Tout cela, évidemment, aux dépens du consommateur. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin.
Et en fait, si vous regardez bien, l'année dernière, on a eu des augmentations considérables. Et donc, on ne va pas se faire avoir deux fois. On ne va pas taper nos consommateurs de ce qui n'est pas vraiment une hausse de coûts, mais qui est aussi une promesse d'augmentation de dividendes. Donc aujourd'hui, on va négocier et ce sera forcément à la dure. Moi, sans faire de la morale, sans faire du populisme anti-multinational, je trouve que c'est pas correct d'aller prélever de l'argent chez les consommateurs français pour aller rémunérer du dividende suisse et après d'avoir ces syndicats d'entreprise dire « Ah, mais ce serait bien qu'il y ait un chèque alimentaire sur fonds publics pour compenser les hausses de prix. »
En fait, il mange à tous les râteliers.
Ouais.
Je vous sens pas hyper séduit par ce discours.
Non, parce que je trouve que Michel-Édouard Leclerc est très souvent invité sur les plateaux.
Ah oui, bah oui.
Qui représente quand même une marque importante. Donc, pense que son but, c'est de faire venir les gens dans ses magasins. Alors, lui, il a un discours très basiste, mais il est aussi là pour faire tourner son business. Donc, cracher sur les autres pour dire, moi, je suis le meilleur. Je trouve très trop.
Je suis le meilleur et le plus gentil.
Oui, mais il est très intéressant, en tout cas.
Oui, il dit des choses sans doute justes. Effectivement, il y a des profits qui sont
sans doute
pas. Mais il vend aussi sa cam et ses centres Leclerc.
Allez, dans un instant, Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso. On parlera du prix des mutuelles qui s'envolent. Et puis, on vous fera gagner à nouveau dans Estelle Midi votre facture d'énergie cet hiver. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h47 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. Dans un instant, on parlera conso avec Stéphane Pedrazzi. Mais vous le savez, toute la journée sur RMC, on vous fait gagner votre facture d'énergie de cet hiver, Rémi.
Exactement. Que vous soyez chauffé au bois, au gaz, au fioul ou à l'électricité, ça fonctionne évidemment. Nous défendons votre pouvoir d'achat et pour tenter de vous faire payer votre facture d'électricité, de bois, de gaz, de chauffage, vous envoyez facture par SMS au 732-16, facture par SMS au 732-16. Et si vous êtes un pro, bien RMC ne vous oublie pas. Là, nous allons vous rembourser jusqu'à 2000 euros dans Estelle Midi. Vous envoyez tout de suite pro par SMS au 732-16. Pro par SMS au 732-16.
Et on est avec Fatia qui nous appelle des Côtes d'Armor. Bonjour Fatia.
Bonjour Estelle et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Et Fatia, vous êtes notre grande gagnante. On va vous rembourser une grosse partie de votre facture d'énergie cet hiver. Jusqu'à 600 euros, vous chauffez comment Fatia?
Alors je chauffe au fioul malheureusement.
Eh oui, ouais, et là c'est vrai que les tarifs ont énormément augmenté. Vous en avez eu combien pour cet hiver Fatia?
Alors j'ai pas rempli complètement, j'en ai eu pour 1600 euros.
1600 euros et nous on vous rembourse 600 euros en tout cas sur RMC, grâce à RMC. Fatia, merci beaucoup d'avoir appelé en tout cas et puis ça continue toute la journée, Rémi.
Exactement, vous envoyez donc pour les particuliers facture par SMS au 732-16 et pour les pros, vous envoyez pro par SMS au 732-16, 2 SMS 75 centimes d'euros le SMS.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
On parle conso avec vous comme chaque jour, Stéphane Pedrazzi. Aujourd'hui, eh bien, c'est une mauvaise nouvelle. On parle souvent de la hausse des tarifs dans cette émission. Et cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec l'alimentaire. Ce sont les mutuelles. Les tarifs ont littéralement explosé.
Ouais, c'est considérable. 7,1% d'augmentation moyenne cette année, selon une enquête UFC Que Choisir. Évidemment, c'est largement au-dessus de l'inflation, qui, je le rappelle, pour 2022 est à 5,2% sur l'ensemble de l'année. Alors, pour parler très concrètement, ça représente une augmentation de 126 euros par an en moyenne par rassuré, mais dans certains cas, c'est vraiment spectaculaire. Dans 20% des dossiers, l'augmentation annuelle dépasse les 240 euros. Les mutuelles deviennent franchement inabordables. Alors, les hausses de tarifs, nous dit UFC, sont plus importantes chez les assureurs privés que chez les mutuelles. On s'en serait douté, mais là, on a des chiffres. 9% de hausse en moyenne pour les assureurs privés et 6,9% d'augmentation en moyenne chez les mutuelles.
Alors, pourquoi est-ce que ça augmente aussi fortement?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le 100% santé qui avait été instauré en 2021. Vous savez, c'est le mécanisme qui permet d'éviter d'avoir à payer un reste à charge pour les prothèses dentaires, pour
les
prothèses auditives et pour les lunettes. Le choix est limité, mais ça permet quand même à toute une catégorie de population d'avoir accès
à
ces prothèses. Ça coûte cher, évidemment, aux complémentaires santé. 2,5%, 2,5 milliards d'euros pour 2021 pour les complémentaires santé. Donc, évidemment, elles expliquent qu'il va falloir le rattraper sur les tarifs. La deuxième raison, c'est la hausse du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Vous savez, le PMSS, ça sert en fait de base pour pas mal de remboursements. Et en raison de l'inflation, il a été relevé de 6,9%. Donc là encore, ça relève les montants que les mutuelles doivent verser. Et donc, on le retrouve dans les cotisations. Puis, la troisième raison, j'ai envie de dire, elle est plus générale, c'est le vieillissement de la population.
Ah oui.
Il y a de plus en plus de seniors et on sait que les seniors ont davantage de frais de santé. Et donc, ça coûte plus cher. Et puis, il y a un quatrième argument qui est donné par les assureurs, mais là, qui est beaucoup plus discutable, c'est la taxe Covid. Vous vous rappelez que le gouvernement, après la crise sanitaire, avait décidé de taxer les complémentaires et leur avait demandé de verser 1,5 milliard d'euros parce qu'elles avaient en fait moins dépensé pendant les périodes de confinement. On était à la maison, il y avait moins d'accidents et du coup les mutuelles avaient moins dépensé et donc elles avaient été mises à contribution. Aujourd'hui, elles nous expliquent que oui, cette taxe a mis leurs finances en péril, mais en tout cas en difficulté, et donc elles le rattrapent, sauf que ça correspondait à une économie de 2,2 milliards d'euros. Donc elles ont quand même fait une économie de 700 millions et aujourd'hui elles essayent de nous faire croire qu'il faut le rattraper. Donc cet argument-là, me l'a donné, mais je le mange pas.
En tout cas, malgré ces explications, UFC Que Choisir dénonce un manque de transparence et demande au gouvernement d'intervenir.
Oui, manque de transparence. D'abord, sur le montant de l'augmentation, on vous dit, voilà, pour cette année, vous allez payer tant par mois, mais beaucoup de mutuelles n'indiquent pas le pourcentage ou le montant de l'augmentation. Et puis, autre reproche, ce sont les frais de gestion. Vous savez, c'est la partie de votre cotisation qui ne sert pas à rembourser des dépenses de santé, mais qui permet de payer les frais de fonctionnement des mutuelles, donc les salaires, les voitures, les bureaux, etc. Et en moyenne, explique justement UFC, que c'est 20% des cotisations versées. C'est-à-dire que lorsque vous payez 100 euros à votre mutuelle, la moyenne, c'est 20 euros qui servent à payer les frais de fonctionnement. Mais c'est une moyenne. Ça veut dire que dans certains cas, ça va bien au-delà. Donc vérifiez. Ces chiffres, généralement, ils sont publics. regardez dans le rapport annuel de votre assureur ou tout simplement sur Internet, vous risquez d'avoir des surprises hein, parce que parfois c'est beaucoup plus que 20%.
Et est-ce que vous avez des conseils, Stéphane, pour tous ceux qui ont subi une forte augmentation? Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Oui, partez en courant. Ça, vous pouvez le faire, puisque depuis 2020, il est possible de résilier à n'importe quel moment et pas uniquement à la date anniversaire du contrat. Donc, vous pouvez faire jouer la concurrence, comparer les tarifs et partir. J'ai envie de dire, bon, vous allez peut-être gagner quelques euros, mais l'augmentation, elle est générale. Ensuite, vérifiez bien que les garanties de votre contrat, elles vous correspondent vraiment. Si vous n'avez pas de paire de lunettes, ça ne sert à rien de payer une mutuelle, par exemple, qui rembourse plutôt bien les frais d'optique.
Mais pareil, on peut toujours en avoir. Oui. Vous avez 50 ans, comme il y a fort à parier qu'à un moment ou à un autre, ça vous tombera dessus.
Mais si vous avez 30 ans et que vous n'avez pas de paire de lunettes, c'est peut-être dommage de payer une complémentaire premium qui assure très bien les lunettes ou qui rembourse les lentilles. Inversement, si vous avez besoin de faire des implants dentaires, par exemple, bon bah choisissez une mutuelle qui rembourse plutôt bien, ça sera un investissement plutôt bien vu. Et puis, si vous êtes proche de la retraite, alors là, attention. Votre complémentaire va exploser. Quand on se retrouve à la retraite, ça coûte beaucoup plus cher pour deux raisons. Quand on est salarié d'une entreprise, la moitié de l'assurance complémentaire est payée par l'employeur, donc on la paye moins cher. Et en plus, dans les contrats collectifs, dans les entreprises, il n'y a pas de notion d'âge. C'est-à-dire que toi et moi, on n'a pas le même âge, mais on va payer le même prix, notre complémentaire.
Alors que moi, je suis en bonne santé en plus.
Et moi aussi, mais... Merci Estelle. Mais il n'y a pas de notion d'âge. Et lorsque vous vous retrouvez à la retraite, bah, vous perdez la moitié de la contribution de l'employeur. Et bon, à la retraite, vous avez plus de 60 ans. Et là, bim, vous payez beaucoup plus cher. Donc si vous avez des trucs à faire, genre changer de paire de lunettes, faire mettre un deuxième bridge, par exemple, hein Fred,
faut pas attendre la retraite.
Voilà.
On parle de quoi demain, Stéphane?
Alors, si vous vous appelez Madame Nichon, Monsieur Connard, je vous expliquerai comment on peut changer de nom. Alors, on peut plus facilement changer de nom depuis le mois de juillet.
D'accord. C'est de la conso, ça?
Oui, enfin c'est de la vie de tous les jours.
J'étais en train de me demander, mais ça a été validé, quelque chose.
Ça a été validé par la rédaction, chef.
Ah bah écoutez, alors dans ces cas-là, je m'incline.
On va être transparent, je ne suis pas totalement maître de ce que je fais.
Stéphane Pedrazzi, tous les jours.
Je te dirai combien ça coûte.
13h50, ah bah voilà, dans Estelle, midi, la Minute Conso. Et puis si vous voulez retrouver Stéphane en podcast, eh bien n'hésitez pas, à toute heure du jour et de la nuit, bien sûr, le podcast d'Estelle Midi, c'est sur rmc.fr, l'appli RMC. Et toutes vos applis de podcast. Dans un instant, on parlera du CESE, le Conseil économique et social, qui voudrait légaliser le cannabis. Vous êtes pour, vous êtes contre? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.